L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
C'est un événement dont on a parlé sur Radio Rythme Bleu. Le navire océanographique, le Persévérance, est à quai à Nouméa. Et pour en parler, vous recevez le médecin explorateur Jean-Louis Etienne.
Oui, Jean-Louis Etienne, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup de prendre du temps pour venir dans les studios de Radio Rythme Bleu. On va évidemment parler de travail que vous menez avec le Persévérance. Mais on va revenir un petit peu aussi sur votre parcours parce que les Français vous ont découvert, j'allais dire, en 1986, lorsque vous êtes parti tout seul avec votre traîneau que vous avez tiré pour rejoindre le pôle Nord. C'est une aventure qui a marqué évidemment beaucoup de monde. Qu'est-ce qui vous a d'abord attiré vers les pôles? Pourquoi cette attirance? Parce que vous menez votre vie dans le froid.
Ah oui. Écoutez, quand j'avais 14 ans, moi je suis né à la campagne, dans le Tarn, dans un village de 800 habitants. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas les montagnes. Je lisais Frison Roche, c'est un écrivain de la montagne. Et j'aimais vivre dehors, je m'inventais des expéditions. Et à 14 ans, j'ai fait une liste de matériel avec un truc qui s'appelait le catalogue de la hutte pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. J'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'analyse ça, j'ai dit, pourquoi en hiver? Vous voyez? Et apparemment seul. Et donc, c'est quelque chose que j'avais en moi, ce désir de faire des expéditions que je m'inventais. Et j'ai réalisé ça à travers mon parcours de médecin. J'étais médecin et donc j'ai proposé mes services de médecin pour commencer à naviguer. J'ai, avec le père Jaouen, on traversait l'Atlantique avec des enfants qui sortaient de prison, des toxicomanes en réhabilitation. Et puis Éric Tabarly m'a pris comme médecin supraindexis. Et d'ailleurs, c'est avec Éric...
Que vous êtes venu la première fois en Calédonie.
Exactement, c'était en 77. On allait à Auckland pour la course autour du monde. Et donc ça a été vraiment, j'ai passé un an avec Éric, j'avais Philippe Poupon, Titouan Lamazou, des copains formidables. Et j'ai continué après, j'étais interne en chirurgie, j'ai arrêté, je faisais la médecine générale en remplacement, ce qui me laissait le temps de programmer effectivement. Et donc comme ça j'ai fait beaucoup d'expéditions et à un moment donné j'avais à avoir 40 ans. Je me suis dit maintenant, il faut que je fasse mon Cap Horn à moi, vous voyez. On est vrai, c'est moi. Et ça a été le choix de faire le pôle Nord.
Mais pour vous, l'aventure et l'expédition est liée toujours à la découverte scientifique. Il faut que les voyages soient, entre guillemets, utiles.
Alors, ils le sont devenus, effectivement, quand j'avais la course autour de moi avec Eric, c'est du plaisir. Les expéditions à la face nord de l'Everest, c'était pareil. Et après le pôle Nord, effectivement, déjà j'étais un examen personnel, je dirais... On s'est rendu compte que ma température centrale était descendue à 35. Normalement, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le corps humain a des capacités d'adaptation quand il fait froid. Bref, et à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai pu élargir à la science, aux opportunités. J'ai fait construire un bateau qui s'appelait Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, donc, j'ai commencé à proposer à des chercheurs d'embarquer sur des destinations essentiellement polaires et en même temps... profiter de ce voyage-là, du terrain, pour faire de la pédagogie sur l'océan.
Alors un petit mot quand même pour terminer sur votre parcours, même si on n'a fait que l'effleurer. Vous avez été tenté aussi par aller dans l'espace, je crois, un moment.
Ah oui,
vous avez voulu être spationaute.
Ben oui, c'était
Et vous
80...
avez même failli réussir.
C'était en 83. Et c'est la première fois qu'on faisait appel à des civils. Et c'est Claudie Agneret qui a été choisie à ce moment-là. Mais Claudie a des compétences extraordinaires. Donc j'avais passé la première tranche, effectivement. J'aurais pu aller dans l'espace, ça m'aurait bien plu. Mais la vie que je mène à terme convient aussi, ouais.
Alors, on va parler un petit peu des expéditions que vous menez avec le Persévérance, qui rentre effectivement des mers du Sud.
Ouais.
Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a une station, il y a Polar POD qui est installée, qui est une plateforme océanographique internationale,
ouais,
avec laquelle vous êtes en lien, puisque vous êtes à l'origine de sa création notamment. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut aller voir dans l'Antarctique? Qu'est-ce qu'il faut aller mesurer? Qu'est-ce qu'il faut aller comprendre?
Alors, il y a un océan qui est capital, qui est au sud, au grand sud de la Calédonie. C'est l'océan Austral.
Pas si loin que ça,
non,
géographiquement.
Non, non, non. Et cet océan, si vous voulez, il fait le tour de l'Antarctique. Il faut voir que quand on parle de l'Antarctique, c'est un continent de glace qui fait 28 fois la surface du pays de la France, en surface, recouvert de 2,5 km de glace d'épaisseur moyenne. Ça, c'est l'Antarctique. Et tout autour, le courant circumpolaire antarctique, cet océan géant qui fait 22 000 km de circonférence, c'est un acteur majeur du climat. Il absorbe à lui seul la moitié du gaz carbonique, du CO2 que l'on émet un peu en excès. Et c'est en même temps une réserve de biodiversité et de vie exceptionnelle. Il est loin, il est difficile d'accès et les campagnes ne se font qu'en été. Et donc mon objectif, c'était de répondre à cette attente des chercheurs, faire des mesures in situ de longue durée tout au long de l'année pour voir comment ça évolue, à la fois parce que ce sont des... On passe de la chaleur subtropicale au froid et à la nuit polaire, donc comment évoluent les espèces, qu'est-ce qui se passe sur cet océan. Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille.
Et c'est une recherche internationale, hein, sur la plateforme, il y a différentes nations qui viennent. Cette espèce de collaboration entre différents pays est aussi quelque chose de très important. Alors c'est lié au statut aussi, évidemment, de ce qu'on appelle le pôle Sud.
Oui, et donc les expéditions que l'on fait rentrent dans le cadre des Nations Unies, de la décade des Nations Unies, et donc on s'engage à diffuser les données. Et donc, c'est ouvert à tout le monde, à tous les chercheurs. Et nous, on fait une partie pédagogique. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'ai fait des études de médecine, j'étais assistant d'université. J'ai une culture de l'exigence scientifique, mais je ne suis pas un scientifique de terrain. Par contre, je suis un relais, je comprends les choses. Et on a besoin d'une pédagogie. On est beaucoup dans l'émotionnel quand on parle toujours d'écologie. On politise tout de suite avant d'avoir compris la complexité. Vous savez, il y a Jean Jaurès, en 1903, fait un discours à la jeunesse. Et pareil, en 1903, il y a une jeunesse passionnée, une jeunesse, etc. Aller à l'idéal, tout en comprenant le réel. Il y a tout dans cette phrase, quoi. Je dis sans arrêt... Tout à fait d'accord avec toi. Conserve ton idéal, travaille sur l'idéal, mais il faut le marier avec la réalité du monde, sinon ça ne sert à rien, tu t'enfermes, quoi.
Est-ce que le nom de votre navire, Persévérance, c'est aussi un petit peu ça? C'est-à-dire chercher un idéal, mettre toutes ses forces pour essayer de le trouver,
oui.
Même si parfois il y a des échecs? Des
Absolument.
Échecs, vous en avez connu, vous vouliez, je crois, à un moment partir en ballon dirigeable, il n'a pas pu se faire parce qu'il a été détruit. Enfin on essuie aussi des échecs.
Mais ça commence au début. Moi, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième, vous voyez. J'ai fait le certificat d'études primaires, j'ai fait une formation de tourneur-fraiseur. Et là, j'ai commencé à découvrir, je le dis à tous les parents qui nous écoutent, la formation professionnelle, c'est un métier d'avenir, quoi. Je suis dans un monde qui devient électronique. On a toujours besoin des 10 doigts, vous voyez. Donc, et c'est une reprise de confiance que j'ai eue au lycée technique, le dessin industriel, tout ça, j'ai aimé. Donc j'ai retrouvé, et donc je suis rentré en seconde, j'ai fait médecine, puis chirurgie. Donc j'ai ce parcours-là d'étape, en fait. Et le mot persévérance, j'ai persévéré, c'est un bouquin que j'ai écrit il y a quelques années, longtemps. Et ce mot, en fait, il est bien à partager. C'est ce que je dis tout le temps quand je fais des conférences dans les classes. Ils me regardent comme un héros inaccessible un peu. Je dis, non, attends, ne rêve pas de ma vie, elle n'est pas faite pour toi. Mais maintenant, est-ce que tu as un truc, une envie, quelque chose, hein, un truc qui te revient, que tu aimerais faire? Je dis, ça, c'est le capital. Et ça, il va falloir le travailler. Mais ce n'est pas parce qu'on en a envie que c'est facile. Ça va demander du temps, du travail. Et de la persévérance, ce mot donc qui m'accompagne depuis longtemps.
Et ça, c'est un message que les jeunes entendent bien?
Oui, je me souviens, je le vois bien. Et alors, je répète ça depuis très longtemps, donc certaines qui sont devenues grandes, qui me disent, oui, vous m'avez inspiré un jour en disant, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut s'approprier, de travailler sur le chemin qui vous conduit vers quelque chose que vous avez envie de faire. Quoi.
Mmh. Alors, c'est pour ça que vous passez beaucoup de temps avec le Persévérance, avec ces visites pédagogiques pour les élèves pendant qu'il est taqué, puisque vous avez rappelé qu'il ne pouvait pas se rendre sur place à n'importe quel moment de l'année. C'est aussi un pendant important du rôle du Persévérance?
Ah ben oui. Là, je vois, on est donc à quai, au quai de la science, on est...
En plus.
Oui, en plus. Et là, je suis arrivé lundi, je vois l'équipage est génial, ils deviennent des instituteurs, ils aiment ça. Et donc, on a beaucoup de classes qui viennent, qui sont venues, c'est prévu pendant un moment. L'idée, c'est, surtout ici, la mer est toute proche, quoi, hein, c'est un décor magnifique. Mais en même temps, les métiers de la mer... Vous voyez, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout quand on habite sur une île. Et donc, leur faire découvrir les métiers de la mer, ça, l'équipage. Et donc, ils sont sortis. Jean, c'est notre chef méca. Donc, j'ai vu une équipe qui lui fait visiter la mécanique, comment on fait de l'eau à partir de l'eau salée, des choses comme ça. Et tout d'un coup, ils entrent dans la vie du bateau. Et peut-être, ça leur crée une vocation.
Jean-Louis Etienne, on va évidemment parler de l'inquiétude aujourd'hui, et elle est réelle chez beaucoup de gens face à l'évolution écologique de la planète, une surconsommation, enfin bon, on pourrait employer tous les termes. Il y a aussi, ça crée beaucoup d'inquiétude, voire chez certains, une certaine angoisse. On n'a pas l'impression que vous portez cette angoisse.
Elle peut être angoissante, l'évolution, si vous voulez. Il y a deux phénomènes majeurs. Il y a, bien sûr, le réchauffement climatique et l'impact que l'on a sur la biodiversité, sur les espèces, quoi. Alors, la biodiversité, les espèces, elles ont une capacité à se réadapter si l'on recrée des conditions.
Si l'on recrée des conditions.
Voilà. Mais c'est quelque chose sur le vivant qui peut, lui, s'adapter. Par contre, le climat, c'est une machine qui a une inertie énorme. Vous voyez, le climat, il faut comprendre, c'est une machine thermique, le climat. C'est l'échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. Ça crée les courants océaniques qui amènent l'eau chaude vers le nord et les vents pareils. Mais c'est une fièvre chronique qui a commencé il y a un siècle, il y a 150 ans, on va dire, au début de l'ère industrielle. Mais c'est très sournois, ça avance doucement et... Ah tiens, c'est vrai, ben oui, c'est le réchauffement climatique. Ah bon, vous voyez, c'est quelque chose qui est une fièvre chronique qu'il faudrait aujourd'hui traiter, un traitement d'urgence. On sait ce qu'il faut faire. Il faut passer des énergies de stock, pétrole, gaz et charbon, à des énergies de flux, l'électricité, décarbonée. Ça, c'est un chantier pour lequel on a l'intelligence des solutions. Vous voyez, donc c'est une mobilisation. Je vois, j'ai fait une conférence à l'école des mines. Et alors, il y en a beaucoup qui sont, comme vous savez, pessimistes, etc. Mais je dis, attendez, les 30 Glorieuses, c'est pour vous. Moi, je suis un boomer, hein, à 80 ans. Et donc, il y a les 30 Glorieuses qui arrivent, quoi. J'ai dit, parce que si jamais vous faites rien, on vous dira, mais oui, vous avez à un moment donné capitulé, quoi. On a l'intelligence des solutions. Vous avez l'intelligence des solutions. Vous êtes vraiment ceux qui peuvent apporter la... Voilà. Et donc, il faut mettre en œuvre le process, quoi. Hein.
Alors, par rapport à ce changement climatique et à ces interactions de l'homme sur la nature, quand vous repensez à votre expédition de 1986, est-ce qu'elle se ferait aujourd'hui dans les mêmes conditions?
Alors d'abord,
pardonnez-moi, mais techniquement, il n'y avait pas de téléphone satellitaire, il n'y avait pas de GPS.
Non, voilà, donc je naviguais avec le soleil, vous voyez.
Et la balise Argos, peut-être?
J'avais une balise Argos que m'avait fait le centre spatial, c'était un prototype. Elle ne vous dit pas où vous êtes, mais elle émet un signal.
Voilà. On peut venir vous chercher.
On peut venir me chercher. Et j'avais une radio, le Herzien, ça ne marche pas très bien. Donc les conditions d'isolement étaient assez, assez fortes. Il y a toujours des gens qui vont au pôle Nord. Aujourd'hui, la banquise fond beaucoup plus tôt. Elle régresse, si vous voulez, très très vite. Et donc je dis toujours, attention, on a ouvert la porte du frigo en Arctique. Parce que l'équilibre, je le répète, du climat, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. Et ce froid au nord est en train de se réduire considérablement par la disparition progressive de la banquise. Donc, je le répète, c'est un traitement d'urgence qu'il faut faire pour le climat. On n'a pas d'aspirateur à CO2. Ça serait plus simple. Vous voyez, nettoyer le ciel, parce qu'on ne le voit pas en plus. Hein. Il n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur, il est là, mais il agit sournoisement. On est en train d'établir une serre au CO2. Et donc, il va falloir arrêter d'en envoyer. Quoi.
Jean-Louis Etienne, vous allez rester quelques semaines, voire quelques mois en Nouvelle-Calédonie, puisque prochaine expédition, c'est, je crois, en décembre qu'elle va...
On partira en janvier, mi-janvier, en décembre. On revient en Antarctique, dans le secteur de la mer du Mont-Durville. Ça sera au mois de février. Donc, on est là pour quelques mois, effectivement. Et donc, on va s'adapter. On va recevoir, communiquer, essayer de faire découvrir le secteur à des personnalités, oui.
Et d'ici là, donc, ce sera aussi ouvert aux scolaires, le bateau, les gens peuvent venir vous rencontrer, parler avec l'équipage.
On a une commandante qui est très organisée, qui s'occupe de ça, et donc par les classes, c'est ouvert.
Voilà, et je rappelle que vous donnerez deux conférences aussi ce soir et demain.
Et demain, oui.
Voilà, pour parler à la fois de votre engagement.
Oui, oui, ça s'appelle « Inventer sa vie », la première, un peu ce dont on vient de parler. Et puis, renouer avec l'écosystème Terre, c'est-à-dire revenir effectivement à un écosystème Terre à l'équilibre. Quoi.
Jean-Louis Etienne, un grand merci d'être passé par les studios du Rythme Bleu ce matin.
L'invité du matin vous a été proposé par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3 900 francs par jour. Seulement 3 900 francs par jour. Toyota Location, à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.